in Galilea, ca găsite fiul și a zis, vino după mine. Și Filip era din Betsaida, din orașul lui Andrei și al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis, am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și despre care au zis prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanael i-a zis, din Nazaret poate să fie ceva bun. Și Filip i-a răspuns, vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către dânsul și a zis despre el, iată cu adevărat izraelitean în care nu este vicleșug. Natanael l-a întrebat, de unde mă cunoști? Iar Iisus răspunzând i-a zis, mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsa Natanael și i-a zis, Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Răspunsa Iisus și i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis lui Natanael, adevărat, adevărat vă spun vouă, că de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus avait résolu de partir pour la Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « C'est lui dont il est question dans la loi de Moïse et des prophètes, nous l'avons trouvé. » C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël lui répondit, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit s'approcher Nathanaël et dit de lui, voici un authentique Israélite, un homme sans artifice. Nathanaël lui demanda, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répliqua, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras mieux encore. Et Jésus lui dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O să vorbesc, de fapt nu o să vorbesc astăzi, o să citesc ceva. O să citesc în franceză, pentru că așa am primit textul și la sfârșitul liturghiei o să-l reiau în română. După cum știți, probabil unii dintre dumneavoastră, astăzi, în prima duminică din post, este Duminica Ortodoxiei. Și în această Duminică a Ortodoxiei, episcopul locului trimite un cuvânt de învățătură către credincioșii săi. Iată că astăzi am primit un cuvânt de învățătură din partea Patriarhului, din partea Patriarhului României, pe la fericitul Părintele Patriarh Daniel, și voi da lectură și voi lectura această scrisoare pastorală pe care a adresat-o. Repet, prima dată în franceză și apoi, la sfârșitul liturghiei, cu un pic de răbdare și cu un pic de îngăduință din partea dumneavoastră, o voi relua în limba română. Lettre pastorale du Saint-Synode de l'Église orthodoxe roumaine pour le dimanche de l'orthodoxie de l'an du Seigneur 2012. Au clergé bien-aimé, à la communauté monastique et aux fidèles orthodoxes du patriarcat roumain, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de notre part, bénédiction pontificale. Très révérend et révérend Père, bien-aimé fidèle, la fête de ce jour, inscrite au calendrier sous le nom de dimanche de l'Orthodoxie, a été fixée sous cette forme il y a mille années, quand, le 11 mars 843, a été rétablie sous ses fondements la vénération des saints icônes. Le dimanche de l'Orthodoxie, célébré depuis lors le premier dimanche du Grand Carême, est le couronnement des luttes et des sacrifices supportés par les chrétiens pour la défense des saints icônes, à l'époque des persécutions de l'empereur Léon, le deuxième Lysorien, et de ses successeurs. C'est Léon qui a été roi entre 730 et 787, dans la première période iconoclaste. À cette époque, des milliers d'icônes furent arrachées, non seulement des murs des églises, mais également des maisons des chrétiens orthodoxes, et elles furent brisées, humiliées et brûlées sur les places publiques. Et les défenseurs des saints icônes furent emprisonnés, torturés, tués ou brûlés vifs, souffrant ainsi pour la vraie foi qui est fondée sur la vénération des saints icônes. Les persécuteurs des icônes n'acceptaient pas cette vérité que le Sauveur Jésus-Christ est simultanément Dieu et homme, et ils affirmaient que la nature humaine a été complètement absorbée par la nature divine. Il prétendait que Dieu ne peut être présenté en image puisqu'il est un esprit qu'on ne peut jamais voir. L'orthodoxie enseigne toutefois que le Fils de Dieu s'est rendu visible par son visage humain, c'est-à-dire que Jésus-Christ est Dieu et homme en même temps. Voilà pourquoi, en dépit de toutes les persécutions et les souffrances auxquelles ils furent soumis, les défenseurs des icônes ne cessèrent de montrer à tous la vérité contenue dans le Saint-Évangile selon saint Jean, où il est dit, Philippe, je cite, « Philippe dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus lui dit, « Depuis si longtemps je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » J'ai fini la citation. Par conséquent, d'après le témoignage du Saint-Évangile, le Dieu invisible s'est rendu visible par son Fils, qui s'est fait homme, et il a eu l'image ou le visage d'un homme. Et si le Fils, qui s'est fait homme, est l'image ou l'icône visible du Père céleste, alors l'image vue du Fils peut être peinte en icône. Ainsi, dans l'icône du Christ, nous voyons le Dieu homme, le Fils de Dieu incarné. En ce sens, l'icône a comme fondement principal l'incarnation du Fils de Dieu à l'image de qui a été fait le premier être humain. Cette vérité est interprétée en mots simples par Père Cléopa Ilié, qui nous dit que Dieu peut être peint en icône parce qu'il s'est montré aux hommes de façon visible et à parler avec des mots intelligibles pour eux. L'icône devient l'image de Dieu dans la mesure où la Trinité tout entière s'est montrée aux hommes. La parole du Père s'est fait entendre au baptême du Fils ainsi qu'à sa transfiguration sur la montagne. Le Verbe de Dieu s'est incarné et ainsi ont pu le voir ses disciples, c'est-à-dire les saints apôtres ainsi que le premier martyr Étienne. Et l'Esprit Saint a été vu en l'image de langues de feu dans sa descente sur les disciples. Au long des siècles, les pères de l'Église nous ont enseigné qu'en vénérant l'icône, nous nous prosternons, non pas devant la matière, devant sa matière, c'est-à-dire le bois ou la couleur, mais devant la personne que l'icône montre. L'icône devient sainte autant par la sainteté de l'image qui y est peinte que par la consécration que le prêtre accomplit par la grâce de l'Esprit-Saint. Le Saint-Père parle des icônes avec éloge, en montrant que nous nous prosternons et nous adorons, non devant la matière dont sont faites les icônes,
mais devant ce qui est figuré par elle, c'est-à-dire la puissance de l'Esprit-Saint. Que la vénération accordée à l'icône va à celui qui est peint sur elle, dit Saint Basile le Grand. Que la peinture silencieuse parle depuis les murs en faisant beaucoup de bien. Et encore, nous, les chrétiens, donnant des lèvres charnelles en baiser à l'image du Christ, de l'apôtre ou du martyr, avec notre âme et notre pensée, nous saluons le Christ et ses saints. En ce sens, les décisions du 7e Concile œcuménique, qui a eu lieu dans l'année 787, devenue obligatoire pour notre vie chrétienne, attestent la descente du Fils de Dieu parmi les hommes, afin d'élever les hommes à la vie divine. Et le sens de l'icône consiste à pneumatiser l'homme et à sanctifier la matière. Par conséquent, peuvent être peintes des icônes matérielles de celui qui s'est fait homme et porteur d'un corps matériel, c'est-à-dire le Christ. Par cela, Dieu nous a montré que la matière peut être sanctifiée et transfigurée, c'est-à-dire unie à Dieu, par grâce. Le Christ a divinisé la matière de son corps, la rendant porteuse de l'Esprit-Saint. Par conséquent, si le corps peut devenir la demeure du Saint-Esprit, de la même façon également, le bois ou la couleur de l'icône peuvent être porteurs de la grâce du Saint-Esprit. Quand le patriarche Méthode de Constantinople et l'impératrice Théodora décidèrent de choisir le premier dimanche du carême de Saint-Pâques comme jour de fête des chrétiens orthodoxes, vainqueurs des ennemis des icônes, ils l'appelèrent dimanche de l'orthodoxie, comme fête patronale de l'Église et couronne de la victoire de la vraie foi sur les hérésies. Ce moment est décrit de façon inspirée également par Père Dumitru Steniloae quand il affirme « Le dimanche de l'orthodoxie est le septième jour de l'Église, son repos festif après la victoire sur le chaos spirituel par l'établissement des fondements véritables de l'existence humaine. Le dimanche de l'orthodoxie est ainsi, chaque année, la fête de la vraie foi, la fête de la victoire de la vérité révélée sur les déformations mensongères de l'être humain. C'est pour cela que, le dimanche de l'orthodoxie, on lit également la liste de tous les hérétiques et l'on prononce un anathème à leur encontre. Chers fidèles, l'icône de Jésus-Christ nous révèle la présence visible de Dieu invisible, la manifestation du corps incorruptible de Dieu incorruptible, c'est-à-dire ce qui est visible de sa personne divino-humaine. D'autre part, dans l'icône du Christ, nous reconnaissons l'appel des hommes à la sainteté, à la ressemblance à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui en créant l'homme a dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Genèse, 1er chapitre, le verset 26. Le Créateur dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Or ce verbe, utilisé au pluriel, nous montre que, en créant l'homme, le Fils ou Verbe de Dieu était avec le Père et avec l'Esprit. Par conséquent, l'homme a été créé à l'image de la Sainte Trinité. Et le Fils de Dieu s'est fait homme pour donner à l'homme la grâce de l'affiliation et de la divinisation, en même temps que la guérison du péché et de la mort qui l'affecte. En ce sens, Saint Maxime le Confesseur dit que de même que le Christ était selon la nature homme sans péché, ayant un corps et une âme, de même nous aussi, qui avons mis notre foi en lui et nous sommes spirituellement revêtus de lui, nous pouvons être en lui par libre volonté, exempt de péché. Dans l'icône d'un être humain, le sang d'un être humain saint est peint son corps pneumatisé, spiritualisé, devenu incorruptible, comme l'est le corps glorieux du Christ, puisque le corps d'un saint participe aux arts de l'état du corps spiritualisé qui recevra l'homme lors de la résurrection des justes. Le saint apôtre Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens, « Le corps est semé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Il est semé sans honneur, mais il ressuscite en gloire. Il est semé dans la faiblesse, il ressuscite dans la puissance. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Et comme nous avons porté l'image de l'être terrestre, nous porterons également l'image du céleste. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revêt l'immortalité. Par conséquent, l'icône nous présente en même temps la mémoire de la vie du saint historique et les arts de la vie du saint dans le royaume des cieux. Le théologien orthodoxe Leonid Ouspensky, parlant des saints et des icônes, montre que la force qui ressuscite les saints après la mort est le Saint-Esprit, qui au cours de leur vie terrestre s'empare non seulement de leur âme, mais de leur corps. C'est pourquoi nous disons que l'icône transmet non l'image de tous les jours et banale de l'homme, mais l'image glorieuse et éternelle de celui qui est devenu saint. De fait, la raison même d'être de l'icône est qu'elle montre au monde les héritières de l'incorruptibilité, c'est-à-dire les héritiers du royaume de Dieu, qu'ils recherchent et goûtent à l'avance de le temple de leur vie terrestre. L'icône présente l'image de l'homme en qui demeure la grâce de Dieu, qui vainque les passions et sanctifie l'homme entier, âme et corps. Pour sa part, Saint Irénée de Lyon attire l'attention sur le fait que le fruit de l'œuvre de l'Esprit-Saint en l'homme est le salut du corps. Car, se demande-t-il, quel peut être le fruit visible de l'Esprit invisible si ce n'est pas de rendre le corps adulte et apte à recevoir l'incorruptibilité? Par conséquent, l'acquisition de la sainteté par la synergie de l'homme avec la grâce de l'Esprit-Saint est le but de la vie chrétienne. En ce sens, les icônes de saints nous montrent que l'acquisition de la sainteté est possible en tout temps et en tout lieu si l'homme aime Dieu et recherche sa sainteté. Chers chrétiens confesseurs de la vraie foi, considérant cela et méditant sur le sens spirituel des saints icônes qui nous appellent à la sainteté, particulièrement en ce dimanche de l'orthodoxie, nous nous réjouissons de ce que les hérésies aient été vaincues par la vraie foi, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour les hommes manifesté en Jésus-Christ. Les saints qui sont peints dans les icônes sont pour nous des maîtres et des amis sécurables. Des maîtres parce que lorsque nous voyons leur image et que nous entendons ce qui est dit de leur vie, nous apprenons beaucoup au sujet de leur foi vivante et nous nous renforçons dans notre propre foi. Quels que soient les malheurs, les épreuves et les tentations qu'ils ont vécues, ils sont toutefois demeurés fidèles au Christ. En voyant l'exemple et l'image lumineuse des saints représentés dans les icônes, nous sommes à notre tour encouragés quand nous traversons des épreuves et des malheurs. Mais les saints ne sont pas seulement pour nous des modèles, ils sont également nos intercesseurs, ils prient pour nous et avec nous pour notre salut. C'est pourquoi nous devons les vénérer continuellement et non seulement quand nous avons besoin de leur aide. De même que nous rencontrons le Christ quand nous prions avec foi et piété devant son icône, de même nous pouvons sacramentalement rencontrer le Christ quand nous aidons nos semblables qui ont besoin de notre aide. Par conséquent, il nous faut être très attentifs au malheur de nos semblables, à leurs besoins, afin de nous aider les uns les autres et devenir les uns pour les autres de nouvelles icônes vivantes de l'amour sacrificiel du Christ, ainsi que nous le demandons dans toute célébration de la Sainte Liturgie en disant « Offrons-nous nous-mêmes et les uns les autres au Christ notre Dieu. » Si dans la prière nous avons de l'amour pour Dieu, il convient que nous aimions par des œuvres de bien également son image sacramentalement présentée en chaque homme. Si nous reconnaissons que la vie et la santé sont des dons de Dieu, il faut alors que nous remercions Dieu pour ses dons et ses bienfaits en offrant à notre tour du peu ou du surplus de ce que nous avons à nos semblables qui se trouvent dans le besoin ou dans la souffrance. La foi en Dieu et l'amour du prochain représentent les deux avirons qui aident notre âme à avancer sur la surface des eaux de la vie spirituelle en direction des souffrances des hommes qui se débattent dans le besoin. Il ne peut exister de vraie foi sans amour miséricordieux, ni d'amour miséricordieux sans foi vivant. C'est celui-ci qui va nous amener vers le royaume de Dieu. Nous vous remercions à tous pour votre fidélité dans la foi et nous vous souhaitons beaucoup de fruits sur le parcours spirituel du carême dans des 100 Pâques et nous prions Dieu de vous bénir. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. La signature du président du Saint-Synode de l'Église orthodoxe roumaine, le patriarche Daniel, suivi de toutes les signatures de tous les évêques, les métropolites et les évêques de tout le Saint-Synode de Roumanie. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne la capacité de comprendre cette théologie de l'icône, qui, voilà, après la parole de notre patriarche, est une théologie très profonde, et que chaque vie, chaque jour de notre vie, nous puissions comprendre que, voilà, l'icône, c'est une présence. L'icône, c'est une présence, et que cette présence, c'est pas une parole qui passe, mais c'est vraiment une présence. Que Dieu nous bénisse. Je vais relire ce texte à la fin de la liturgie en roumain pour ceux qui vont arriver un peu plus tard et pour ceux qui ont eu des problèmes avec la compréhension du texte. Que Dieu nous bénisse tous. On va continuer avec la liturgie, mais attention, la liturgie qu'on va faire aujourd'hui, ce n'est pas la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Les premiers 5 dimanches du carême, on va faire la liturgie de Saint Basile le Grand. C'est une liturgie plus longue, plus développée. Donc, je demande tout d'abord aux parents de tenir un peu les enfants, parce que cette liturgie, c'est un peu plus profonde. Il y a des prières très longues, des prières très, très développées. Et c'est bien d'être attentive et pas dispersée dans toutes les directions, parce qu'il y a des prières très, très profondes. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Thank you.